Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
It's the Sinn Féin man on that one-stop train. The deal has been done, the story's told.
Bonjour. Les législatives anticipées demain en Irlande pourraient bouleverser les équilibres politiques. Les sondages d'intention de vote prédisent une percée du Sinn Féin. Pour les Irlandais qui ont connu l'époque du conflit nord-irlandais, le Sinn Féin, ça reste le bras politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Mais pour les jeunes, le parti est prêt pour incarner le changement politique et social. C'est à lire dans Courrier International cette semaine. On en parle avec Sacha Mitchell. Bonjour Sacha.
Bonjour Juliette.
Alors c'est jour d'élection demain en Irlande, où le Premier ministre Leo Varadkar joue sa survie politique. C'est une survie qui pourrait bien être compromise par un parti, le Sinn Féin.
Et oui, c'est l'histoire d'un paria politique aux portes du pouvoir, ou presque. Le Sinn Féin, c'est un parti qui réclame la réunification de l'Irlande. Il est actif en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et en République d'Irlande, donc, où se tiennent les élections législatives demain. Dans les derniers sondages, il est crédité de 25% des intentions de vote devant Fianna Fáil, 23%, et Fine Gael, 20%, les deux partis centristes qui se partagent historiquement le pouvoir. Paria, comme le dit le site bruxellois Politico, parce que personne n'a oublié en Irlande que Sinn Féin a longtemps été la branche politique de l'IRA provisoire, ce groupe paramilitaire actif pendant les troubles, le conflit entre catholiques irlandais et protestants britanniques en Irlande du Nord. Sauf que le Sinn Féin, il s'est diversifié ces dernières années. Ce n'est plus que le parti de la réunification. Le Sinn Féin s'est positionné fermement à gauche en luttant contre les politiques d'austérité au lendemain de la crise et en faisant campagne pour le mariage gay en 2015 et la légalisation de l'avortement en 2018. Alors certes, le bilan du Premier ministre Leo Varadkar de Fine Gael n'est pas mauvais. La croissance est bonne, par exemple, et il a bien défendu les intérêts de l'Irlande lors des négociations sur le Brexit. Mais les problèmes de logement et d'accès aux soins préoccupent les Irlandais, ce qui pourrait bien profiter au Sinn Féin. Il ne peut y avoir de gouvernement progressiste en Irlande sans ce parti. C'est un fait, assure même The Irish Times. Reste que la participation de Sinn Féin à un futur gouvernement reste plus qu'incertaine. Aucune formation politique n'est en mesure d'atteindre la majorité absolue et les deux grands partis sont tout sauf enthousiastes à l'idée de former une coalition avec lui.
Alors, Sacha, vous parliez du Brexit. Justement, on n'a pas pu y échapper la semaine dernière. Il pose une question existentielle à laquelle pas grand monde n'avait pensé. Que va devenir l'anglais ?
Absolument, Juliette. Avec la sortie du Royaume-Uni de l'UE, la part de citoyens européens dont la langue maternelle est l'anglais, elle s'est effondrée. Elle est passée de 13 à 1 petit pourcent. Alors, bien sûr, pas de panique, l'anglais va rester l'une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Tout le monde le parle au sein des institutions. En revanche, c'est sa nature qui risque d'évoluer, selon le journal allemand Jetzt. Déjà, à Bruxelles, la plaisanterie veut qu'on ne parle pas l'English, mais le bad English, le mauvais anglais. Les faux amis, les fautes de grammaire, elles sont déjà légion dans les discours des chefs d'État et des eurodéputés. Et selon les professeurs et les traducteurs interrogés dans l'article, ce processus, il risque de s'accélérer avec le départ des Britanniques. En fait, même les jeunes Européens seront de plus en plus rares à l'avenir à parler un anglais parfait et ils le feront exprès. Au lieu d'imiter les Américains ou les Britanniques, ils mettront un point d'honneur à marquer leur origine européenne dans l'anglais qu'ils parleront. Alors l'avènement de cette riche européenne English, comme on l'appelle, ce n'est pas pour demain. Mais comme le dit le professeur Marco Modiano, interrogé par Jetzt, le départ des Britanniques, c'est un peu comme quand le prof d'anglais quitte la classe et que les élèves commencent à se jeter des boulettes de papier. Et c'est une très bonne nouvelle, la fête ne fait que commencer. Et puis de toute manière, ajoute-t-il, le mauvais anglais, ça n'existe pas. Il n'y a que des ayatollahs du bon usage qui veulent rabaisser les autres. L'essentiel, c'est de communiquer, de se comprendre. Un minimum.
Sacha, c'est le dossier de une de Courrier International cette semaine. Il s'appelle « La fin des bébés ». Partout dans le monde, la natalité baisse et dans un village d'Espagne, on n'a pas vu de naissance depuis 2 ans.
C'est la capitale d'une Espagne qui se vide. Fermoselle, dans le nord-ouest du pays, détient un triste record, celui de la plus grande municipalité d'Espagne parmi celles qui n'ont pas eu une seule naissance ces 2 dernières années, comme vous le disiez Juliette. Après la guerre, 4300 personnes vivaient dans la commune. Aujourd'hui, la population atteint à peine 1200, dont seulement 50 mineurs. Encore un chiffre, en 1927, l'école accueillait 800 enfants, cette année, 34. C'est le symptôme d'une Espagne où le solde de naissance est négatif, c'est-à-dire où les décès surpassent les naissances. Le problème n'est pas tant la baisse de la fécondité, nous apprend le reportage d'El Mundo que nous publions, mais le fait que les hommes et les femmes en âge d'être parents sont de moins en moins nombreux. C'est mécanique et la tendance va être difficile à inverser.
Merci Sacha Mitchell. Un dossier, la fin des bébés, à retrouver donc cette semaine dans Courrier International.
Merci Juliette.
À Berlin, un artiste allemand a réussi à créer des embouteillages virtuels sur Google Maps grâce à une charrette remplie de smartphones. De quoi tromper l'application qui a fait apparaître des rues saturées de voitures, incitant ainsi les véhicules bien réels, eux, à prendre des itinéraires alternatifs. Plus d'explications avec Julien Méchaussy.
Simone Weckart peut être fière de son coup. Sur sa vidéo, on le voit tirer lentement sa charrette qui contient 99 téléphones portables dans différentes rues de Berlin. L'artiste s'est même amusé à passer devant les locaux de Google. Des captures d'écran montrent ces rues passées de vert à rouge sur Google Maps, la couleur qui indique aux automobilistes les embouteillages, alors que ces mêmes rues sont désertes lors du passage de l'artiste. Une vidéo devenue très rapidement virale et célébrée sur les réseaux sociaux pour son ingéniosité et sa simplicité. Journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies au quotidien d'ITATS, Daniel Kretschmar salue cette idée.
Chaque action qui pointe du doigt la manière dont travaille Google, l'emprise que cette entreprise a sur nos vies au quotidien, est bonne à prendre. L'art est l'une des armes à notre disposition et cet artiste a réussi à appuyer là où ça fait mal. Même si le procédé utilisé est à mes yeux un peu trop facile, mais le but recherché est le bon, ouvrir la discussion et faire prendre conscience au grand public que Google est partout.
Mais comme de nombreux autres experts, Daniel Kretschmar se montre sceptique sur le procédé utilisé par l'artiste. Il aurait suffi d'une seule voiture qui passe à vitesse normale au même moment pour que Google Maps réagisse et reconnaisse que l'artiste se déplace à pied. L'avertissement d'embouteillage aurait alors été immédiatement supprimé. Et pour Daniel Kretschmar, attaquer seulement Google Maps n'est pas forcément la meilleure démarche.
Je ne suis pas certain que s'en prendre spécifiquement à ce service constitue la démarche la plus judicieuse. Google Maps fait partie des services en ligne les plus pratiques et les plus importants de notre quotidien. Moi-même, je l'utilise également très souvent. Mais je me demande s'il ne serait pas plus intéressant d'attaquer Google sur le fait que cette entreprise ne paie pas d'impôts ou encore qu'elle gère nos données comme sa propriété sans les mettre à disposition du public.
Dépassée par l'écho médiatique de son action, Simone Weckart a décidé de ne plus parler aux médias. Mais son objectif initial est rempli. Attirer l'attention du grand public sur l'impact des services virtuels sur le monde physique.
La 5G se déploie petit à petit dans les pays membres de l'Union européenne. Cette nouvelle norme de téléphonie mobile doit permettre de développer l'Internet des objets, de faire fonctionner votre montre connectée, comme de réaliser des opérations chirurgicales à distance. Et parmi les précurseurs, il y a les Roumains des grandes villes, dont la capitale, Bucarest, qui sont passés à la 5G avec Orange depuis la fin de l'année dernière. Mais la situation est plus paradoxal qu'il n'y paraît, Benjamin Ribou.
Dans certains lieux de la capitale Bucarest, la connexion dépasse déjà les 500 mégabits par seconde. Concrètement, cela permet de télécharger un film en quelques secondes. Un chiffre impressionnant qui confirme que la Roumanie est l'un des pays les mieux connectés au monde. La 4G y a été largement développée, y compris dans les campagnes, et ce, depuis déjà de longues années. Un paradoxe dans un pays où plus d'un quart des habitants possèdent encore leurs toilettes à l'extérieur, et où de nombreux villages n'ont ni l'eau courante, ni le tout à l'égout. Avec de bons ingénieurs, le pays a bénéficié d'une conjoncture idéale pour développer la fibre optique et le haut débit. À la chute du communisme, c'est l'ensemble des réseaux de télécommunications qu'il a fallu revoir. Plus facile, dans ces conditions, de passer à la technologie supérieure. L'impact du secteur sur l'économie roumaine est certain, notamment dans des villes comme Bucarest ou Cluj-Napoca, où ont été créées des centaines de start-up ces 10 dernières années. Un sacré plus pour l'emploi, entre autres. Mais si la Roumanie a trouvé dans les nouvelles technologies stratégie, une manière d'exprimer ses capacités d'innovation. Difficile d'en dire autant du reste de son infrastructure. Le pays est encore largement à la traîne, malgré des besoins énormes, à l'image des quelques kilomètres d'autoroute à peine qui se construisent péniblement chaque année.
Des villes de plus en plus connectées, de plus en plus bétonnées et l'émergence hors des grandes villes d'une nouvelle société. Il y a tout cela dans le livre de Guillaume Faburel, Les métropoles barbares, publié aux éditions du Passager clandestin. Il revient sur le phénomène de l'urbanisation incessante et la barbarie qui en découle avec Louis Seyé.
Ce sont des villes qui ont pour modèle des villes-monde, que sont New York, Paris, Tokyo, et qui sont au nombre maintenant de plus d'une centaine sur la planète, et qui seraient en fait le modèle à suivre, considérant que la grandeur a quelques vertus économiques, politiques, mais d'un point de vue écologique, on peut se poser la question. Dans cette grandeur et ce grossissement-là, bien évidemment, ça se fait au détriment de nos propres existences, en fait. S'il s'agit de toujours plus vivre entassé, ou en tout cas à proximité, dans une forme de promiscuité, il faut gouverner un peu nos corps, il y a des conduites attendues, des comportements qui sont souhaités, et du coup on est de moins en moins libre. Donc la barbarie vient déjà du vécu que nous avons, chacun d'entre nous, d'être en accélération permanente, dans un divertissement incessant, d'être sommé, d'être connecté au vaste monde, mais au détriment, par moment, de pouvoir ménager, tempérer, se réfugier, de pouvoir un peu s'isoler de ces mondes-là. On est embarqué, en fait, la totalité de nos existences, c'est ça le fait social total de la métropolisation, c'est que l'ensemble de nos existences sont embarquées dans des vies qu'on n'a pas choisies. Et enfin, le dernier terme de la barbarie, c'est qu'écologiquement, la métropolisation, c'est 80% des gaz à effet de serre à l'échelle internationale pour une population urbaine qui est de l'ordre de 58% à l'échelle planétaire aujourd'hui.
Alors justement, en termes d'écologie, on parle aujourd'hui quasiment tous les jours d'écologie et de crise climatique. Mais dans ces discussions et dans ces débats, on parle relativement peu en fait de l'urbanisation. Pourquoi ?
C'est quelque chose qui, depuis plusieurs siècles maintenant, nous est vanté avec force de mérite comme une création humaine, la grande œuvre de l'humanité. Bref, les villes seraient facteurs de civilisation et d'émancipation, à la fois personnelle et collective. Donc on s'est jamais véritablement interrogé, assez fondamentalement, sur les effets écologiques de cette artificialisation de nos vies, de cette bitumisation des espaces. Le fait métropolitain doit arraisonner l'ensemble de ces terres, enfin des terres de la planète, et les faire à sa main. À des fins alimentaires, à des fins énergétiques, à des fins résidentielles. Donc c'est pas simplement une question de formes urbaines, de taille de ville ou de niveau de peuplement. C'est véritablement l'ensemble de nos régimes de consommation qui se joue derrière, nos systèmes de pratiques et l'ensemble des comportements. En fait, c'est la question clé. Peut-on encore continuer à artificialiser le monde ? À urbaniser la terre, alors même que c'est la cause première à la fois d'enjeux sociaux et de tensions politiques, mais plus encore d'un écocide qui est déjà engagé.
Jusqu'au 16 février, la Maison européenne de la photographie à Paris présente le travail de la photographe allemande Ursula Schulz-Dornburg qui traque depuis 50 ans les traces de l'homme dans les paysages sauvages. Des photos proches de l'abstraction qui explorent les thèmes de la frontière, de l'architecture et de l'environnement, Frédéric Lebel.
Parce qu'elle est née en 1938 à Berlin, on a tout de suite envie de croire que la passion d'Ursula Schulz-Dornburg pour l'histoire, les murs et les frontières a été dictée par ses origines. Mais c'est une fausse direction. Pendant la guerre, son père malade a été réformé et la famille a très vite quitté Berlin pour la province. Et c'est là qu'Ursula s'est imprégnée de ses premières images.
J'ai passé toute mon enfance à la campagne et on ne bougeait jamais. Et j'avais un oncle qui avait une immense collection de timbres qui venaient du monde entier. Et comme il n'y avait ni télévision, ni voyage, alors ces timbres représentaient pour moi le monde. Ces images fantastiques, artistiques, ont peuplé mon jardin secret.
This was my secret life.
Depuis, les images d'Ursula ont pris de l'envergure. Ces photos noires et blancs parlent presque toujours des traces que laisse l'histoire sur les paysages. À la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, elle a photographié des sites troglodytes. Au VIe siècle, ils auraient servi de refuge à Saint-David, fuyant l'Empire byzantin. Les galeries ont ensuite été transformées en monastères avant de servir de site d'entraînement pour l'armée soviétique. La frontière est un lieu hostile et pour pouvoir photographier, il fallait se lever à l'aube.
On devait se lever à 4 heures du matin accompagné par les chiens parce qu'il y a beaucoup de loups dans la région. Et puis on devait arriver très tôt car ensuite la lumière du soleil aurait été trop forte et trop directe. Et je n'aurais pas pu faire ce noir et blanc. Et puis je voulais aussi révéler les failles produites par les tremblements de terre. Et il y en a eu beaucoup dans la région. Et ces failles donnent à l'image sa dynamique.
L'Arménie occupe une place de choix dans cette exposition. Pays en guerre, pays en ruine. On peut voir les photos surréalistes de vieux abribus en forme de parasol construits à l'époque soviétique. L'Arménie, c'est aussi un peuple, un génocide dont l'épicentre, Deir ez-Zor, se situe en Syrie, alors que le mont Ararat, centre de l'ancien royaume d'Arménie, est en Turquie. L'actualité télescope aussi ces photographies dont l'installation a été minutieusement pensée. Shoher Mavlian, commissaire de l'exposition.
C'est vraiment le choix d'Ursula d'installer cette photo de Deir ez-Zor près de la porte, avec en perspective, sur la droite, la vidéo du mont Ararat. La photo montre un des sites du génocide arménien dans le désert syrien. On l'a placé à part sur le mur en contrebas. Il y a une chaise basse pour que les visiteurs puissent s'asseoir. Et donc, sur la droite, en perspective, ils peuvent voir le mont Ararat, le symbole de l'Arménie. Un symbole national unique en son genre, puisqu'il se situe en dehors des frontières du pays.
Les symboles se superposent au réel, et le réel devient aussi œuvre abstraite sous l'œil d'Ursula. En se rendant à l'Institut Vavilov en Russie, fondé en 1916 par le biologiste du même nom, on découvre que le combat écologiste ne date pas d'aujourd'hui. Il a voulu sauver de l'oubli des centaines de milliers de variétés de semences et pour cela, il a été envoyé au goulag. On ne compte plus aujourd'hui qu'une dizaine de variétés de blé dans le monde, alors que la nature en avait produit 60 000. Ursula Schulz-Dornburg en a photographié 50.
Quand je photographie toutes ces variétés différentes de blé, c'est comme si je photographiais des architectures qui n'existent pas. Comme si j'avais des spécimens qui venaient de Chine, d'Argentine, du Pérou, d'Allemagne ou d'Italie, du monde entier. Et chacun est différent, et ça me plaît, parce que l'industrie agroalimentaire a gommé toutes ces différences et a détruit une bonne partie de cette diversité. Une partie de notre culture a disparu, et c'est ce que j'essaie d'exprimer ici.
Architecture et culture, des mots qui s'appliquent aussi aux épis de blé.
May I have your attention, please?
La musique avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Pour le deuxième album de l'allemand Jörn Tiberius Kor.
Un projet très étonnant aujourd'hui, signé du compositeur et sound designer allemand Jörn Tiberius Kor, un familier des albums concept, puisqu'il avait publié en 2018 un disque entièrement inspiré par Walden, classique de la littérature américaine du 19e siècle, écrit par le poète et naturaliste Henry David Thoreau. Mais c'est aujourd'hui une inspiration très différente, plus urbaine, qui donne naissance à Astoria, deuxième album où Jörn Tiberius Kor raconte l'histoire d'un bâtiment, un hôtel somptueux construit en 1915 à Leipzig, en Allemagne, partiellement détruit par des bombardements en 1943, puis reconstruit et demeuré en activité jusqu'au milieu des années 90. Et pour raconter cette histoire de l'Astoria, le compositeur alterne des morceaux parlés, des plages instrumentales néoclassiques et quelques titres interprétés par les chanteuses Mina und Fräulein Laura.
Dass ein jeder sein Tanzfuß schwingt, das Kleid im Monde strahlt.
The Ballard, extrait d'Astoria de Jörn Tiberius Kor. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez réécouter l'émission sur RFI.fr ou vous abonner au podcast d'Accent d'Europe sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite un bon week-end.